L'islam pour les nuls, CD numéro 2. Chapitre 11. L'éthique musulmane, vive la vie.
Les ouvrages d'introduction à l'islam ne traitent pas de façon spécifique des problèmes moraux et éthiques qui sont souvent évoqués de façon ponctuelle, ce qui entretient une certaine confusion dans l'esprit du lecteur. C'est pourquoi j'ai essayé de regrouper dans ce chapitre toutes les considérations théoriques et pratiques en relation avec l'éthique musulmane. Le Coran traite à la fois des obligations envers Dieu et du comportement que l'on doit avoir envers ses semblables. Certains manuels d'introduction à l'éthique musulmane, destinés à des profanes, abordent à la fois les principes moraux et les bonnes manières en matière de comportement. Ainsi, on y trouve sur le même plan des exhortations à dormir du côté droit et à ne pas mentir. Dans ce chapitre, quand je parle d'éthique, je parle des obligations que l'on a envers les autres et envers soi-même, c'est-à-dire de la morale sociale et personnelle. Toutes les religions mettent l'accent sur l'éthique. Prenons l'exemple des enseignements de Confucius, qui forment la base de toute éthique, non simplement en Chine, mais dans toute l'Asie de l'Est. La principale préoccupation de Confucius portait sur le comportement que chacun devait avoir avec les autres, de sorte que la société puisse fonctionner correctement pour le bien de tous. Confucius a prodigué de nombreux conseils de vie, et considérer qu'il existe des principes moraux absolus, c'est-à-dire des comportements dont chacun, du simple fait de sa nature humaine, sait ou devrait savoir qu'ils sont bons ou mauvais. Le plus important pour Confucius n'était pas tant de dresser la liste des choses permises et des choses interdites que de construire la personnalité morale qui est ce qui, pour lui, distingue la nature humaine de toute autre nature. Selon Confucius, une personne bien construite agira normalement, instinctivement, de façon morale, sans avoir besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. De même qu'une personne bien construite au plan moral aura une bonne influence sur les autres, sans se laisser corrompre par d'autres à la personnalité moins bien structurée. Confucius a également mis l'accent sur la modération qui consiste à éviter les extrêmes. Il a établi 5 niveaux de relations qui constituent la trame de toutes les relations humaines et définissent un cadre moral. Relations entre époux, entre parents et enfants, entre les enfants de même parent, les frères et sœurs, avec d'autres personnes, et enfin entre le chef de l'État et le citoyen. Chacun de ces rapports est réciproque, signifiant que les deux côtés de l'équation ont réciproquement des engagements l'un envers l'autre. Ce qui n'exclut pas qu'il y ait aussi des engagements unilatéraux qui viennent s'y ajouter. Par exemple, l'enfant a une obligation de respect et de soins envers ses parents. L'islam pourrait reprendre à son compte presque tout ce qui vient d'être dit de l'éthique confucéenne. En effet, la plupart des religions s'accordent sur les grands principes moraux appliqués au comportement, ce qui est permis et ce qui est défendu. Connaissez-vous une religion, par exemple, qui prône le crime ou le mensonge, la fraude, l'exploitation des pauvres, l'adultère, le vol ou la dureté de cœur envers les parents? Les religions ont également la même optique en ce qui concerne les traits de caractère souhaitables ou au contraire répréhensibles, les vertus et les vices. Par exemple, le fait d'être généreux et de fuir l'avarice, la modestie à l'opposé de l'avantardise. La principale différence entre le confucianisme et l'islam tient à ce que l'éthique dans l'islam repose sur la révélation divine, la parole de Dieu. À retenir. bien que les intellectuels occidentaux fassent de subtiles différences entre l'éthique, la théorie, et la morale, directive pratique, dans ce chapitre, les deux termes sont utilisés de façon interchangeable, n'en déplaise aux grands esprits.